premier sur l'info. Le journal présenté par Cédric Vallax.
Allez, c'est parti, le journal. Cédric, bonjour.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. Christiane Taubira a quitté le gouvernement ce matin. La garde des Sceaux est remplacée par le député Jean-Jacques Urvois. Un fin connaisseur du Fénois, on en parle en début d'édition. Le conseiller à l'outre-mer de François Hollande a rencontré Oscar Temerou ce week-end. Une rencontre très discrète, confirmée par le leader indépendantiste, vous l'entendrez. Au menu des discussions, une possible rencontre avec le président de la République le mois prochain. Oscar Temerou qui est plus que jamais à la recherche de parrainage pour se présenter à la présidentielle de 2017. Au chapitre judiciaire, nous reviendrons sur la demande de prescription dans l'affaire Haddad Floss, une demande défendue hier devant la chambre de l'instruction par les avocats de la défense. Nous reviendrons aussi sur le jugement prononcé à l'encontre de l'ancien maire de Fakalava et sur les 3 ans de prison ferme auxquels une mère de famille vient d'être condamnée. Enfin, nous terminerons cette édition avec ces quelques producteurs agricoles qui ont décidé de se passer de la centrale d'achat Keiro-Tuurau.
Et on commence donc avec la démission de la garde des Sceaux, remplacée par quelqu'un qui connaît bien le Fénois.
Oui, Christiane Taubira a quitté le gouvernement ce matin. Elle a justifié son départ par un désaccord politique majeur, faisant allusion, sans le dire clairement, à l'extension de la déchéance de la nationalité pour les binationaux nés en France. C'est le député Jean-Jacques Urvois qui la remplace. La passation de pouvoir vient d'avoir lieu. Proche du Premier ministre, Jean-Jacques Urvois était le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Ce spécialiste des questions de sécurité connaît bien la Polynésie. Dans un rapport, il avait évoqué les spécificités de la délinquance au Fénois. Jean-Jacques Urvois, dont le dernier voyage au Fénois remonte à mars dernier. Plusieurs réunions avaient été organisées avec les différents services et administrations de l'État, avec les Tavanas et le gouvernement. Parmi les thèmes abordés alors, le toilettage du statut d'autonomie auquel il était favorable.
Et puis, cette rencontre très discrète entre Oscar Temerou et le conseiller à l'outre-mer de François Hollande.
C'était samedi, à l'issue du déplacement de Marc Visy, venu préparer le voyage officiel du président de la République au Fénois. Le leader indépendantiste nous a confirmé l'information hier matin, même s'il est resté très laconique sur cette rencontre. Il est au micro de Vaïté Oulali Pambrin.
Tavanas, vous avez rencontré Marc Visy ce week-end. Il a été question de quoi?
Ah ben, vous avez les yeux partout, hein. Oui, effectivement, nous nous sommes rencontrés.
Il disait justement la dernière fois qu'il serait possible que le président Hollande vienne vous rencontrer.
C'est une possibilité.
Vous avez vu ça avec lui ce week-end?
Oui, on s'est vu. C'est un vieil ami, hein. Voilà, hein, c'est tout ce que je peux dire.
Et est-ce que Hollande va soutenir votre candidature?
Je ne sais pas, on verra.
Pas de doute que les deux partenaires politiques d'antan auront plusieurs sujets de conversation, parmi lesquels la convention entre le PS et le Tavigny ou encore le soutien de François Hollande à la candidature d'Oscar Temerou à la présidentielle de 2017. Le leader indépendantiste est d'ailleurs toujours en recherche de parrainage pour se présenter et Oscar Temerou pourra compter sur le soutien d'élus polynésiens. C'est le cas du Tavana de Tahuata, Félix Barcinas, qui nous a annoncé officiellement ce week-end qu'il soutiendrait de tout cœur la candidature d'Oscar Temerou.
Ça sera de tout cœur que je soutiendrai cette candidature pour qu'il soit officiellement reconnu comme candidat aux prochaines élections présidentielles. C'est simplement que M. Oscar Temerou est un candidat qui a simplement une ligne de conduite, c'est-à-dire mener ce pays à l'indépendance. Moi, je pense qu'il a tout à fait le droit de faire connaître à l'échelle nationale la politique qu'il veut mener. Et pourquoi ne pas donner à un Polynésien cette chance de pouvoir côtoyer d'autres prétendants au poste de président de la République.
D'être plutôt autonomiste. Et qu'est-ce qui vous pousse à soutenir cette candidature?
On doit dépasser ce clivage autonomiste-indépendantiste. Comme tous les autres maires, le cri sur tous les toits, hein, mais simplement parce que Oscar a une conviction de vouloir développer ce pays sans pour autant dépendre de qui que ce soit. Ceci dit, moi, je vais l'accompagner. Moi, je vais lui donner ma bénédiction de pouvoir aller sur une scène politique en France et pouvoir argumenter son programme.
Le leader indépendantiste estime que ce soutien est une très bonne nouvelle et il en espère bien d'autres.
C'est une très bonne nouvelle, je le connais un peu et j'espère qu'il y en aura d'autres. Je peux pas m'annoncer un peu plus parce que on est en train de faire ce travail, c'est un peu un travail de, je dirais, de titan, hein. Parce qu'il faut avoir les soutiens dans plusieurs départements, circonscriptions, d'élus, maires, sénateurs, députés. Et pour le moment, bon ben, ça avance.
Alors, il paraît que les élus Tahuera vont vous soutenir, en tout cas, est-ce que c'est vrai ça?
Eh ben, j'espère que tout le monde va me soutenir. Voilà. Voilà ce que je peux dire.
Et
Et maintenant, on ouvre notre page judiciaire avec l'affaire Adatflos. La défense demande la prescription du dossier.
Et maître François Quinquis, François Spinner et Pierre-Édouard Gondran de Robert étaient réunis hier devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete. Les trois avocats respectifs de Gaston Flos, Hubert Haddad et Jeffrey Salmon ont plaidé pour la reconnaissance de la prescription dans l'affaire Adatflos. Pour la défense, l'annulation de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction prononcée en juin 2014 par la cour d'appel de Papeete a fait disparaître l'ensemble des actes antérieurs à la décision. La procédure est donc revenue entre les mains du juge d'instruction et pour les avocats, le dernier acte officiel de l'instruction est le réquisitoire définitif du parquet rendu le 28 septembre 2011. Le délai de prescription de 3 ans est donc dépassé pour maître François Spinner.
La prescription, ça veut dire que si pendant un délai de 3 ans, il ne se passe rien, eh bien le dossier est prescrit. Or, si vous considérez que l'ordonnance de renvoi a été annulée, le dernier acte qui interrompt la prescription, c'était le soi transmis qu'avait fait le procureur de la République pour prendre ses réquisitions, et depuis cette date, il s'est écoulé plus de 3 ans et ils n'ont rien fait.
Voilà, mais l'avocate générale Brigitte Angibault est loin d'avoir la même appréciation que les avocats de la défense. Selon nos informations, la représentante du parquet a requis hier le rejet de cette demande en estimant que les différents procès en correctionnel et en appel avaient interrompu la prescription, même si les décisions prises par ces juridictions avaient été annulées depuis. Le fin mot de l'histoire reviendra à la chambre de l'instruction le 1er mars prochain. Pour la défense, cette procédure est à la fois une nouvelle cartouche contre la procédure, mais aussi un moyen de gagner du temps si la chambre de l'instruction rejette le recours. Il sera encore possible de former un pourvoi en cassation, synonyme de 12 mois supplémentaires d'attente au minimum dans ce dossier.
Justice toujours avec l'ex-maire de Fakarava, condamné à 6 mois de sursis pour prise illégale d'intérêt.
L'affaire avait été révélée par la chambre territoriale des comptes lors de son rapport sur la gestion de la commune de Fakarava. La juridiction financière avait dévoilé que l'ancien Tavana et représentant Tawela à l'Assemblée, Howard Vailarloa, avait fait voter par son conseil municipal la prise en charge des loyers de son appartement personnel à Papeete à partir de 2006, des loyers qui ont coûté la bagatelle de 4,9 millions de francs à la commune. Aujourd'hui, sans mandat, Howard Vailarloa a été condamné hier à une simple peine de 6 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt. L'ancien Tavana repassera le 3 mai devant le tribunal sur intérêt civil pour déterminer la somme qu'il devra rembourser à la mairie.
Et le tribunal a également rendu son délibéré dans la triste affaire de cette mère de famille qui avait laissé mourir son bébé dans sa voiture.
Oui, les faits remontent à 2012 à Paea. La jeune maman avait laissé son bébé de 7 mois enfermé en plein soleil dans sa voiture à 2 reprises. D'abord pendant près d'une heure et quart pour aller acheter un gâteau et ensuite pendant 1h30 une fois arrivée chez elle. Le pauvre enfant était mort de déshydratation. Hier, le tribunal correctionnel a condamné la mère de famille à 3 ans de prison ferme. Son avocat, Maître Lamourette, qui avait produit lors du procès une expertise psychologique démontrant une possible altération du discernement, n'exclut pas de faire appel. Il compte également demander à ce que sa cliente n'effectue pas sa peine en prison pour pouvoir s'occuper de son autre enfant.
Et on poursuit avec la grève de l'éducation qui a fait un flop hier.
Oui, les syndicats se gaussaient lundi d'une forte participation pour le mouvement de grève prévu le lendemain. Mais hier matin, seule une 60aine d'enseignants étaient présents devant le commissariat. Le sujet de la réforme des collèges et de l'amélioration des conditions de travail ne semble donc pas inquiéter les enseignants polynésiens. Françoise Awata, secrétaire territoriale du syndicat FSU-SNES, justifie cette faible mobilisation par une certaine timidité des enseignants pour manifester. 5 représentants des syndicats ont tout de même été reçus à 10h par le chef de cabinet du haut-commissaire. Une autre rencontre au vice-rectorat, cette fois, s'est déroulée à 11h.
Et on termine avec ces petits producteurs de fruits et légumes qui ont décidé de se passer de Kaihoturao, la centrale d'achat agricole.
Le mardi est le jour des livraisons de fruits et légumes pour la société SIPAC. Depuis un an, le grossiste installé à Maïna a lancé un plan de communication pour inciter les petits agriculteurs locaux à livrer directement leurs produits à la société contre une rémunération en cash payée à chaque livraison. Le directeur de la SIPAC, Thierry Gabé, explique qu'avec cette stratégie, de plus de 30% de son chiffre d'affaires est réalisé grâce à la production locale.
Donc nous, le principe est très simple. Ce qu'on voulait, c'était développer les fruits et légumes. Et développer les fruits et légumes, ça passe forcément par l'achat du local. Puis surtout, nous, ce qu'on voulait, c'était aider les petits producteurs, les achats locaux. Donc c'est ce qu'on a mis en place déjà il y a un peu plus d'un an. Donc comment ça se passe? On a quelqu'un qui sillonne un peu la Polynésie, qui rencontre les producteurs locaux et qui, par rapport à nos besoins, fait des achats. Ces achats ensuite sont livrés ici sur la CIPAC à Maïna. Et puis surtout, derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on paye cash les producteurs locaux. Donc forcément, dans une période compliquée, annoncer qu'on paye cash à certains de nos clients, ça les interpelle.
Interrogé sur l'arrivée de Cayotura ou la nouvelle centrale d'achat agricole, le directeur de la CIPAC explique qu'il restera fidèle à ses petits producteurs. Il dit aussi craindre que Cayotura ne se tourne davantage vers les gros producteurs actionnaires de la centrale.
Si en effet le Cayuturo reste dans sa vocation première qui est d'aider les petits producteurs, évidemment il y aura sûrement des petits producteurs qui rejoindront le Cayuturo, mais encore une fois que les meilleurs gagnent. Ce qu'il faut être sûr, c'est qu'en effet le Cayuturo reste dans cette mission, hein, puisque on sait que derrière le Cayuturo on aura des gros producteurs. Donc en effet je souhaite quand même, j'espère que les gros producteurs vont continuer la mission du Cayuturo. La première mission qui est d'aider la production locale, la petite production locale. Nous, on restera fidèles à nos petits producteurs. On voudrait, je l'espère, être en tout cas leur recours, le dernier recours, je sais pas, mais leur recours à s'adresser à des gens qui sont fidèles dans leurs achats, qui les aident dans leur production.
Taï et Yor, ce sont deux producteurs de Taravao et Paea. Le système de livraison au grossiste et paiement cash leur convient parfaitement. Pour l'heure, ils voient davantage la centrale d'achat comme un concurrent que comme un partenaire potentiel.
Pour nous, l'intérêt, c'est qu'ils prennent en quantité. Et à savoir que nous fournissons les grandes surfaces et les supermarchés de Tahiti. Et or que dans les îles, il y a un grand besoin de la population des îles. Donc grâce à CIPAC et d'autres grossistes, nos amis des îles arrivent à consommer des fruits et légumes en passant par CIPAC. Pour l'instant, nous travaillons avec Cayuturo. Puis les premiers temps, lorsque Cayuturo a été mis en place, nous n'avons jamais travaillé avec eux. Donc ils ont pris notre stratégie, mais bon, pour l'instant, nous avons nos clients.
Interrogé sur ce manque d'entrain de certains petits producteurs, le gouvernement rappelle qu'il est actionnaire à 49% de la centrale Keihoturao, justement pour veiller à ce que les gros producteurs ne soient pas les seuls bénéficiaires de cette centrale.
Retrouvez l'info en continu Radio 1. Sur radio1.pf.